27. T'en as mis du temps, dit Holly. J'espère que tu as trouvé une bonne histoire à leur raconter.
Assignation à comparaître.
Hodges n'a pas besoin d'en dire plus. Ils ont déjà utilisé l'histoire de l'assignation plus d'une fois. Du moment qu'ils ne sont pas les principaux intéressés, les gens sont toujours prêts à donner un coup de main.
C'était qui au téléphone ?
Pensant Jérôme, pour s'assurer qu'ils allaient bien. Easy James. Ils ont reçu deux autres appels, un suicide et une tentative. Une fille qui a sauté du deuxième étage, elle a atterri sur une congère et s'en sort avec quelques fractures. Et un garçon qui s'est pendu dans son placard. Il a laissé un mot sur son oreiller, juste un prénom, Beth, avec un cœur brisé.
Les roues de l'Expedition dérapent légèrement quand Hodges enclenche la marche avant et reprend la nationale. Il doit conduire avec ses feux de croisement allumés. Les pleins phares transforment la neige qui tombe en un mur blanc scintillant.
« On doit lui régler son compte nous-mêmes, » dit-elle. « Si c'est Brady, jamais personne ne le croira. Il se fera passer pour Babino et inventera une histoire comme quoi il a pris peur et s'est enfui. »
« Sans appeler la police alors que Biblial avait assassiné sa femme ?» dit Hodges. « Je suis pas sûr que ça tienne. »
« Peut-être que non, mais imagine qu'il puisse entrer dans la peau de quelqu'un d'autre. » S'il a pu sauter dans Babino, qui sait à qui d'autre il pourra s'en prendre? On doit lui régler son compte nous-mêmes, Bill, même si on se fait arrêter pour meurtre. Tu crois que ça pourrait arriver? Dis, tu crois?
On s'inquiétera de ça plus tard.
Je suis pas sûr de pouvoir tirer sur quelqu'un, même pas sur Brady Hartsfield s'il ressemble à quelqu'un d'autre.
Il lui répète. On s'inquiétera de ça plus tard.
Bon, d'accord. D'où tu sors ce bonnet?
Je l'ai échangé contre mon Borsalino.
Le pompon est ridicule, mais il a l'air bien chaud.
Tu le veux?
Non, mais... Bill?
Bon sang, Holly, quoi?
Tu as une mine affreuse.
La flatterie ne te mènera nulle part.
C'est ça, moque-toi. On est encore loin?
De la vie générale là-bas, 5,5 km sur cette route. Puis c'est la piste qui mène au camp.
Silence pendant 5 minutes, alors qu'il progresse à travers la neige cinglante. Et le plus gros de la tempête est encore à venir, se rappelle Hodges.
Bill.
Quoi encore?
Tu n'as pas de bottes, et je n'ai plus de nicorette.
Pourquoi tu t'allumes pas un joint? Mais continue à surveiller la route, et guette deux poteaux rouges sur la gauche. Il devrait plus être loin.
Holly ne s'allume pas de joint, se contente de s'avancer sur son siège, et de regarder à gauche. Quand l'Expedition dérape à nouveau, l'arrière se déportant d'abord à gauche puis à droite, elle ne paraît pas le remarquer. Une minute plus tard, elle pointe du doigt.
« C'est eux ?»«
Oui, c'est bien eux. Ils ont été ensevelis par le chasse-neige, ils ne dépassent plus que d'une 50aine de centimètres, mais ce rouge vif est impossible à rater ou à confondre. » Hodges caresse la pédale de frein, met l'Expedition à l'arrêt, puis manœuvre de manière à se placer face à la congère. Puis il dit à Holly ce qu'il disait parfois à sa fille quand il montait avec elle dans les tasses folles au parc d'attractions de Lakewood.
« Tiens bien ton dentier. »
Holly, qui prend toujours tout au pied de la lettre, réplique.
« Je n'ai pas de dentier. »
Mais elle se cramponne d'une main au tableau de bord. Hodges appuie en douceur sur l'accélérateur et roule en direction de la congère. Le heurt auquel il s'attendait ne se produit pas. Thurston avait raison. La neige n'a pas eu le temps de se tasser et de durcir. Elle cède, s'éparpillant de part et d'autre de la voiture et sur le pare-brise, aveuglant momentanément Hodges. Il pousse les essuie-glaces à la vitesse maximale et quand la vitre s'éclaircit, l'Expedition est engagée sur une piste forestière s'emplissant rapidement de neige. De temps à autre, des paquets dégringolent des branches alourdies. Ils ne voient aucune trace de passage d'une voiture avant la leur, mais ça ne veut rien dire. Elles doivent être effacées à présent. Il éteint ses phares et avance lentement. La bande de blanc entre les deux rangées d'arbres est juste assez visible pour servir de repère et le guider. La piste semble interminable, descendant, virant, descendant à nouveau. Mais ils finissent par arriver à l'embranchement. Hodges n'a pas besoin de sortir vérifier les flèches. Au loin sur la gauche, à travers la neige et les arbres, il perçoit une faible lueur. C'est Ted Zeppo, et il y a quelqu'un à la maison.
Il braque le volant et emprunte lentement la voie de droite.
Ni l'un ni l'autre ne lèvent la tête pour voir la caméra de surveillance, mais la caméra les voit.
28.
Au moment où Hodges et Holly franchissent la congère laissée par le chasse-neige, Brady est assis devant la télé, vêtu du manteau d'hiver et des bottes de Babineau. Il a retiré les gants. Il veut avoir les mains nues, au cas où il devrait se servir du scar. Mais une cagoule noire est posée sur sa cuisse. Quand le moment sera venu, il l'enfilera pour couvrir le visage de Babineau et ses cheveux d'argent. Ses yeux ne quittent jamais la télévision tandis qu'il tripote nerveusement les stylos et les crayons qui dépassent du crâne en céramique. Une vigilance accrue est absolument nécessaire. Quand Hodges arrivera, il éteindra ses phares.
Aura-t-il son nègre tondeur de pelouse avec lui ? Se demande Brady.
Ce serait pas chouette, ça ? Deux pour le prix de...
Et quand on parle du loup ?
Il craignait que le véhicule du vieux flic ne passe inaperçu dans la neige de plus en plus drue, mais il s'inquiétait pour rien. La neige est blanche. Le 4x4 est un rectangle noir massif glissant au travers.
Brady se penche plus près, plissant les yeux, mais il est incapable de dire s'il y a une seule personne dans l'habitacle, ou deux, ou une putain de demi-douzaine. Il a le scar, et avec, il pourrait descendre une escouade entière s'il le fallait. Mais ça gâcherait tout le plaisir. Il veut Hodges vivant. Du moins, pour commencer.
Une question demeure. Prendra-t-il directement à gauche ou bien à droite ?
Brady parie que K. William Hodges choisira la bifurcation qui mène au camp du Grand Bob. Et il a raison.
Alors que le 4x4 disparaît dans la neige, avec un bref coup de frein qui allume ses feux arrière, lorsque Hodges négocie le premier virage, Brady repose le crâne porte-crayon à côté de la télécommande et s'empare d'un objet qui attendait sur la table basse.
Un objet tout à fait légal si utilisé de manière appropriée, ce qui n'a jamais été le cas de Babineau et consorts.
Ils étaient peut-être de bons médecins, mais loin dans les bois, ils étaient bien souvent de vilains garnements.
Brady passe le précieux accessoire autour de sa tête et le laisse pendre par l'élastique sur le devant de son manteau. Puis il enfile la cagoule, attrape le scar et sort. Son cœur bat vite et fort, et pour le moment du moins, l'arthrite semble avoir totalement disparu des doigts de Babineau. La vengeance est une hyène, et la hyène est de retour.
29.
Holly ne demande pas à Hodges pourquoi il a pris à droite. Elle est névrosée, mais pas stupide.
Il roule au pas, regardant sur la gauche, se situant par rapport aux lumières.
Quand il arrive au même niveau, il s'arrête et coupe le moteur. Il fait nuit noire à présent, et lorsqu'il se retourne pour la regarder, Holly a l'impression fugace de ne pas voir une tête, mais un crâne.
« Reste là, » dit-il à voix basse, et crie à Jérôme. « Dis-lui que tout va bien. Je vais couper par les bois et l'attraper. »«
Tu veux pas dire vivant, si ?»«
Non, pas si je le vois avec un zapite. »«
Et même si je le vois sans, » se dit-il.
« On ne peut pas prendre le risque. »«
Alors tu crois que c'est lui, Brady ?»«
Même si c'est Babineau, il est impliqué. Jusqu'au cou. »
Mais c'est vrai, il est maintenant convaincu que l'esprit de Brady Hartsfield pilote le corps de Babineau.
Son intuition est trop forte pour être niée, et elle a acquis la valeur d'un fait.
« Que Dieu me vienne en aide si je le tue et que je me suis trompé, » pense-t-il. « Seulement, comment le saurais-je ? Comment pourrais-je jamais en être certain ?»
Il s'attend à ce que Holly proteste et veuille l'accompagner, mais tout ce qu'elle dit, c'est
« Je ne suis pas sûr de pouvoir conduire ce machin hors d'ici s'il t'arrive quelque chose, Bill. »
Il lui tend la carte de Thurston. « Si je ne suis pas de retour dans 10 minutes, non, disons 15, appelle ce type. »«
Et si j'entends des coups de feu ?»«
Si c'est moi et que je vais bien, je klaxonnerai sur la voiture de Biblial, de petits coups. »« Si tu ne les entends pas, roule jusqu'à l'autre camp, celui de Grand Bob machin chose. »« Force l'entrée, Trouve un endroit où te planquer et appelle Thurston. »
Hodges se penche par-dessus la console centrale et, pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, pose ses lèvres sur les siennes.
Holly est trop surprise pour répondre à son baiser, mais elle ne se recule pas.
Quand il s'écarte, elle baisse les yeux, confuse, et dit la première chose qui lui vient à l'esprit.
« Bill, tu es en chaussures, tu vas geler !»«
Il n'y a pas tellement de neige sous les arbres, juste quelques centimètres. »
Et franchement, avoir froid aux pieds est la dernière de ses préoccupations à ce stade. Il trouve l'interrupteur à bascule pour neutraliser le plafonnier. Alors qu'il descend de l'Expedition, poussant un grognement de douleur contenue, Holly entend le murmure croissant du vent dans les sapins. Si c'était une voix, ce serait une lamentation. Puis la portière se referme. Elle reste assise, sans bouger, regardant la forme sombre de Hodges se fondre dans les formes sombres des arbres, et quand elle n'arrive plus à les distinguer les unes des autres, elle sort et suit ses traces. Le Victory 38, qui était l'arme de service du père de Hodges dans les années 50, du temps où Sugar Hill était encore un bois, est dans la poche de son manteau.